Allô à tous, bienvenue sur le podcast Causerie par Jeanne Dubé, un podcast où on aborde différents sujets sur l'entraînement, la santé féminine et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir mon invitée. Elle s'appelle Gabrielle Bernier et c'est une amie à moi du secondaire. On est allé à l'école ensemble à Cardinal-le-Roi en sport-études. Elle était en nage synchronisée et moi en danse. Et depuis quelques années, elle habite maintenant au Texas, aux États-Unis. Donc, on s'est un petit peu perdu de vue physiquement, mais on a gardé contact par écrit. Puis l'été dernier, elle est venue à Québec et c'est là qu'on s'est vus. Puis elle m'a parlé de son projet que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, j'ai eu envie de l'inviter sur le podcast pour qu'elle nous en parle davantage. Gabrielle, elle est maman de trois enfants, elle est professeure de yoga et maintenant certifiée en réhabilitation périnéale et c'est ce qu'elle va nous parler aujourd'hui. Elle a parti sa compagnie qui s'appelle Lifted Mama. Et je trouve que la réhabilitation périnéale, c'est un sujet qui est vraiment intéressant à aborder parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Et souvent, ben en tout cas, moi, j'associais ça beaucoup à la maternité. Donc, la réhabilitation post-accouchement, de retrouver son plancher pelvien. Mais en fait, le plancher pelvien, les muscles qui supportent les organes et qui vont tenir notre bassin, même notre sangle abdominale, sont vraiment importants, peu importe si on passe par la maternité ou non. Donc, on devrait tous en apprendre un petit peu plus sur la fonction de ces muscles-là, l'importance de les solliciter, de les renforcer. Donc, Gabrielle va être là vraiment pour nous en parler, pour nous éduquer là-dessus, puis répondre à certaines questions qu'on a. Donc, j'ai vraiment hâte que vous découvriez la conversation. Donc, sans plus attendre, on plonge dans l'épisode. Bonne écoute. Allô, Gabri, bienvenue.
Salut, Jeanne, ça va?
Ça va bien, et toi?
Ben oui, merci de m'avoir sur ton podcast.
Écoute, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Qui l'aurait cru qu'on aurait fait on ferait un podcast ensemble après toutes ces années? C'est quand même assez fou. Je suis très contente de ça. C'est vraiment cool.
Oui, non, c'est vraiment le fun. Puis je pensais justement à comment, tu sais, c'est ce yoga, ça a commencé, puis tout. Puis Jeanne, t'es celle qui m'a emmenée pour la première fois au yoga show à la
Ah oui?
pyramide à 5 fois.
Ben voyons donc, je m'en rappelais pas. Ben
Ben oui.
c'est. C'est vraiment fou. Fait que c'est moi qui t'ai initié au yoga chaud.
Ouais, fait que c'est ça. Tu sais, toi, là, ben, j'essayais de compter les années, là, mais écoute, on était au secondaire, là. Ou à la fin secondaire, début cégep, genre.
Ça se peut, oui, ça fait. Parce que ça fait combien de temps que tu es rendu au Texas que tu habites là maintenant?
Ça va faire 10 ans.
10 ans. Wow. Hey, ça va vite. Ça fait aussi
Genre le
longtemps.
2 février.
Ça fait aussi longtemps que moi j'habite Montréal que toi tu habites Texas en fait. On est comme déménagés en même temps, mais à deux endroits complètement différents pour deux raisons complètement différentes. Puis d'ailleurs, ben, j'aime ça faire un retour aux sources avec mes invités sur le podcast parce que ça amène à en apprendre davantage sur la personne. Puis, fait que si tu as envie de parler de ton parcours professionnel, personnel, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Parle-nous de toi.
Ben oui, ben dans le fond, c'est ça. Ça fait 10 ans que j'ai déménagé au Texas. C'était d'abord pour une opportunité d'être nageuse synchronisée professionnelle. C'est la raison qui m'a amenée ici, mais maintenant, plein de nouvelles raisons font que je suis restée ici. Pas seulement là, que j'ai pris goût à l'été, à l'année longue, mais je
C'est une bonne
dirais, là,
raison, par
c'est
exemple.
une méchante bonne raison, ouais. Mais je dirais, ça a été juste plein d'opportunités l'une après l'autre. Puis là, j'ai rencontré une communauté de yoga qui était absolument fantastique. Donc, un studio qui voulait juste grandir, qui est vraiment focusé sur l'évolution de leurs instructeurs, pour leurs profs. Donc, il y a vraiment comme un focus là, sur l'évolution de soi-même, puis comme un peu de promouvoir ça pour les étudiants. Puis, donc, c'est vraiment spécial. J'avais vraiment jamais rencontré ce genre de communauté-là. Puis, je dis communauté, là, c'est vraiment américain, là, l'idée d'une communauté, parce que tout le monde ne vient pas nécessairement de San Antonio, mais parce que beaucoup de gens n'ont pas de famille ici, ben tu te retrouves à devoir t'attacher à une communauté. Les amis deviennent très, très proches. On est tissé serré. Puis, c'est ce qu'on appelle là, comme une communauté. Donc, je n'avais jamais vraiment connu ça parce que moi, toute ma famille est à Québec. Oui. J'ai des amis proches à Québec, mais ce genre de relation-là, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Puis, je me suis vraiment trouvée à grandir là, personnellement. Puis, puis là, ben, je suis devenue maman. Donc, ça aussi, ça m'a fait grandir beaucoup. c'est un tout autre monde. Donc, c'est 10 ans plus tard, je suis encore ici. Puis, j'aime enseigner ce qui me passionne. À Québec, j'étais coach de synchro. J'ai resté coach. J'ai comme créé cette opportunité-là pour moi d'être coach ici aussi. Puis ensuite, d'enseigner le yoga, ça allait de soi, là, éventuellement. Une certification, deuxième certification. Puis là, je viens de me spécialiser. La spécialisation s'appelle Postpartum Core Exercise Specialist. Donc, vraiment au niveau postpartum, là, tout ce qui est spécialisation pour les problèmes qui en déroulent, on va dire. La réhabilitation postnatale périnéale.
Super. Puis, tu enseignes encore le yoga en ce moment?
C'est un petit peu difficile avec la pandémie.
Ah oui.
Mais oui, là, je pense faire un retour bientôt. Là, j'ai été en congé de maternité pour les 9 derniers mois. Puis ici, ça fonctionne un petit peu différemment d'à Québec. J'ai pas un congé de maternité tout court. Donc, c'est à mes frais. Donc, c'est à mes frais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité là, ou que ce soit un petit peu plus attrayant de commencer à avoir un salaire ou en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, on était capable de faire à mes frais jusqu'ici. Puis là, ben, on se dit que ce serait le temps que je retourne au travail. Puis ça me manque. Là. Je suis une maman qui travaille. Donc, j'ai été élevée avec une maman travailleuse puis travaillante. J'ai comme un besoin là, de voir les corps, de travailler avec les gens. Puis. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire un retour là, bientôt, mais jusqu'à... j'ai toujours travaillé, là. J'ai pris des congés de maternité entre 3 et 4 mois. Puis ensuite, à temps partiel, là, j'ai continué d'enseigner pendant là, mes trois cocos.
Mm-hmm. Puis où c'est parti cet intérêt-là pour la rééducation périnéale? Est-ce que c'est venu d'une expérience personnelle ou c'est venu de la communauté, justement, des gens autour de toi qui en parlaient, puis tu t'es dit, crime, faut que je fasse quelque chose avec ça? D'où ça part?
C'est un peu des deux. Donc, je dirais qu'à travers mes 3 grossesses, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup... de soutien au niveau de la réhabilitation après. Hein, pendant que tu es enceinte, ben il y a beaucoup d'intérêt sur maman parce que c'est elle qui est en train de... pas grandir bébé, mais qui est en train de créer...
De produire, oui.
De produire bébé. Puis ensuite, un coup que tu accouches, ben là, tout le focus, l'intérêt est sur bébé. Tous les milestones, puis ça serait que bébé grandisse comme il faut, qu'il soit en santé, puis tout. Puis, ben maman est un petit peu laissée à elle-même. J'ai comme un peu vécu ça après chacune de mes grossesses. J'ai été chanceuse. C'est sûr que je n'étais pas en situation de pandémie après mes 2 premiers bébés. Donc, j'ai pu retourner au yoga show assez rapidement. Puis, j'ai pu comme continuer l'entraînement en groupe là, rapidement. Puis ensuite, bébé numéro 3, le 2 avril 2020, en pleine pandémie. Donc, j'ai été un peu prise à la maison, mais aussi j'ai eu un accouchement complètement différent. Et là, j'ai eu des problèmes d'incontinence, comme terrible après. Donc, j'avais un peu une... J'avais déjà eu la piqûre pour plancher pelvien et tout, surtout au niveau enceinte, qui avait comme pas beaucoup de connexions qui se faisaient. Puis là, je voulais comprendre plus, je voulais savoir plus ce qui se passait pour pouvoir aussi assister des femmes enceintes éventuellement après. Ayant eu l'expérience de 3 grossesses. Puis là, tout d'un coup, j'ai comme aucun contrôle sur mon plancher pelvien, quelqu'un qui a été une athlète, puis qui enseigne le yoga, qui est super body aware, puis là, aucun contrôle. Donc, j'aime comprendre. Donc là, je trouve un programme qui me convient, puis là, ça l'a complètement... changer mon monde, là. Je veux dire, ça l'a même ravivé la flamme de l'entrepreneuriat. Je suis comme, OK, il faut que j'enseigne ce contenu-là à plus de femmes possible, de comment faire une bonne réhabilitation. Puis, dans le fond, dans mon cas, c'est juste qu'après bébé numéro 1 et 2, j'ai repris ma forme assez rapidement. Donc, on ne se questionne pas. Tu sais, je remets mes vêtements, je reprends mes activités comme j'avais, puis tout va bien. Mais qui paraît pas de l'extérieur, c'est que j'étais pas prête physiquement de l'intérieur pour bébé numéro 3. Là. Donc, et je l'ai vite découvert.
Ah oui, hein? Puis, ben, tu parlais, c'est ça, que tu es justement une ancienne athlète. Toi, tu as fait de la nage synchronisée à haut niveau. T'as même travaillé dans ce milieu-là là, avec bon, des compétitions, mais aussi des performances, des spectacles. Et là, t'enseignes le yoga, fait que t'es aussi dans ton corps, puis c'est ton outil de travail. Puis là, t'es devenue maman, fait que ton corps, tu l'as utilisé de différentes façons pour des objectifs, des buts précis. La réhabilitation périnéale, tu sais, moi-même, j'ai tendance à l'associer beaucoup à la maternité parce que c'est là que peut-être que des problématiques peuvent être déclenchées, chose que c'est ce que tu as vécu personnellement de ton côté. Mais tu me corrigeras si je me trompe, mais ça peut aussi partir d'un sport ou d'une problématique sans même avoir été enceinte. Dans le fond, le plancher pelvien, on pourrait peut-être justement expliquer c'est quoi le plancher pelvien en soi. Peut-être que tu peux développer un peu plus là-dessus.
Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est vraiment une réalité, le plancher pelvien qui peut avoir des problématiques. C'est pas seulement pour la femme postpartum, là. La femme qui n'a pas eu encore d'enfant, celle qui n'en a jamais eu, ou même les hommes. Parce que, ben on a tous un plancher pelvien.
Oui.
Donc, dans le fond, le plancher pelvien se trouve à être vraiment au bout de la colonne, là, mais au bout des abdominaux. Donc, c'est la ceinture abdominale, faudrait y penser plus comme si elle avait quatre côtés. Donc, il y a la ceinture abdominale devant, les abdominaux qu'on connaît, qu'on voit. Ensuite, il y a le diaphragme qui est au-dessus. Il y a les multifidales, tout ce qui est derrière, tout ce qui est le dos, la ceinture, là, en fait, tout le tour. Puis ensuite, il y a le plancher pelvien. Donc, ce serait vraiment ce qu'on considérait notre corps. Donc, c'est vraiment au bas de notre corps, c'est le plancher pelvien.
Le support, c'est ça, c'est vraiment comme...
C'est le support. Il faudrait aussi le voir, une façon facile de le voir visuellement, là, comme un hamac. Donc, le plancher pelvien se trouve à être vraiment au bas du torse, de notre torse, puis il se trouve à être attaché à l'os pubien, au coccyx, puis sur le côté des os pelviens. Puis là, ben il y a tout, il y a plusieurs organes qui sont par-dessus le plancher pelvien, là, nos organes reproducteurs, les organes urinaires, puis ensuite le rectum qui est derrière. Donc, ça se trouve à vraiment tenir tout ça. Donc, dès qu'il y a une malfonction, dès qu'il y a une faiblesse, ben c'est là que là, on a des problèmes qui sont assez tabous, qui vont faire être en conséquence. Mais c'est aussi qu'il y a les fléchisseurs de hanches, les fessiers, les abdominaux, les adducteurs, qui sont tous attachés aux os pelviens et qui vont tous entrer en ligne de compte là, avec le bon fonctionnement du plancher pelvien. Puis encore une fois, hommes et femmes, bébé, pas bébé, on a tous ces groupes musculaires-là. Donc, au niveau ensuite de gérer la pression intra-abdominale, c'est vraiment là que ça peut être n'importe qui là, qui va souffrir de problèmes au niveau pelvien. Dépendamment de ta posture, dépendamment de ton activité physique. Ça peut affecter plein de gens.
Oui, donc je dirais que On pourrait dire que le plancher pelvien, comme principale fonction, objectif, c'est vraiment de tenir les organes, que ce soit les organes urinaires, les organes vitaux, même, j'imagine, l'estomac, la vessie, tout ça. Mm-hmm. Puis c'est justement pour que ces organes-là tiennent en place et s'il y a une faiblesse, comme on disait, ou s'ils sont trop contractés ou sont mal sollicités ou pas assez sollicités, c'est là qu'il peut avoir bon, des problématiques. Si on peut nommer, c'est quoi les problématiques qu'on peut voir? C'est quoi de l'incontinence ou de la fuite urinaire, des problèmes au niveau de la posture également? Ça peut-tu...
Oui, on peut avoir un prolapsus chez la femme. Un prolapsus, c'est les organes qui descendent. C'est une pression terrible. Là. Tu trouves à vraiment sentir comme une pression. Tu sens comme, ben là, j'ai l'impression que mes organes sortent. Là, donc, c'est ça, c'est le prolapsus. Oui, soutenir les organes, mais le plancher pelvien est aussi là pour stabiliser. Si tu es en train de faire du yoga puis que tu vas d'une transition à l'autre, ben c'est le plancher pelvien là, qui va se trouver à vraiment stabiliser puis t'aider à faire la transition dans ton mouvement. L'hiver, quand tu glisses sur la glace, si tu n'as pas le plancher pelvien qui est là pour t'attraper, tu glisses, tu tombes. Mm-hmm. Le plancher pelvien vraiment là est un stabilisateur et aussi là pour préparer. En théorie, ton plancher pelvien te prépare pour gérer la pression abdominale avant d'achemer.
OK.
Donc, ceux qui ont de l'incontinence ou ça s'appelle stress incontinence, là, ceux qui vont avoir, mettons, c'est ça, sauter ou achemer, puis là, il y a une petite fuite, bien, c'est que le plancher pelvien n'a pas contracté avant l'étirement.
Le fait qu'il soit pas vif ou qu'il se contracte pas au bon moment, c'est-tu parce que il est un peu ça snooze, là, si on veut, c'est qu'il est pas assez, il est pas tonifié ou il a pas été assez travaillé, ou c'est parce qu'il a perdu des fonctions parce qu'il était comme affecté par rapport, mettons, à un accouchement justement, que là, il a été endommagé au bout puis là, il répond plus. Ça peut être quoi les causes qui fait qu'il est pas là pour supporter le corps?
Oui. En fait, ça peut être les deux. Donc, okay. Tu peux avoir le plancher pelvien qui est hypotonique et qui va avoir, donc, exemple, par l'accouchement, qui a été super étiré, puis là, ben, c'est ça, il est un peu sur le sinus, puis c'est pas tout à fait là où il n'y a comme pas de connexion qui se fait, là. Donc, si tu fais des exercices de plancher pelvien, puis tu essaies de contracter, puis il n'y a rien qui se passe, là, ça va être au niveau de réactiver le plancher pelvien, puis de reprendre contrôle pour qu'il n'y ait plus de problème. De l'autre côté, quelqu'un qui est extrêmement stressé ou
tonique.
Il y a le hypotonique puis il y a le hypertonique. Donc, quelqu'un qui est juste qui va garder beaucoup de tension en elle, ça peut être dû à la respiration, ça peut être dû à juste être constamment contracté, là, littéralement. En toute transparence, c'est ce qui est arrivé avec mon troisième accouchement. Donc, j'ai poussé un bébé sur un plancher pelvien qui était contracté. Donc, après l'accouchement, bien, j'étais encore comme un peu... Mon plancher pelvien était traumatisé, était super contracté, pas capable de détendre. Donc, ça veut dire, à ce niveau-là, pas capable d'insérer un tampon, pas capable même des douleurs physiques. Donc, c'est un peu comme, je dirais, la tendance, c'est d'avoir, tu sais, les trapèzes tendus. Oh, tu sais, mon ou des épaules tendues, puis là, tu vas te masser, tu vas peser sur des points de tension. C'est juste un petit peu plus complexe de faire la même chose au niveau du plancher pelvien, mais ça peut être, c'est juste un groupe musculaire.
Comme
c'est
un autre.
C'est comme les épaules, comme les biceps, les quads, là, c'est un groupe musculaire. C'est trois niveaux de muscles, un sur l'autre, donc superficiel, inférieur superficiel, puis profond, et ça peut être aussi tendu. Si tu tiens ton bras devant toi toute la journée, à la fin de la journée, tu as mal au bras, puis tu peux pas utiliser ton bras
efficacement.
Même chose avec un plancher pelvien. Donc, quelqu'un qui est tendu, qui va tenir les hanches serrées, qui est assis longtemps, donc des gens qui travaillent à l'ordinateur toute la journée, mais ça se peut que tu sois tendu. Et donc, c'est un ou l'autre. Donc, hypotonique, hypertonique, c'est pas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre.
C'est deux types qui peuvent mener à des problématiques, dans le fond. Fait que ce qu'on peut comprendre, c'est qu'un plancher pelvien doit être souple, malléable, donc il doit avoir une capacité de contraction quand c'est nécessaire,
ouais.
Mais une capacité aussi à se détendre, parce que c'est là qu'il peut avoir des problématiques au niveau de l'accouchement, parce que quand un bébé sort de là, il faut que ça soit... Ça a une certaine élasticité, j'imagine. C'est ça. Si un muscle qui est tellement tight, si on lui demande après ça de se stretcher, c'est là qu'il déchire. Naturellement, c'est comme un élastique qui est comme, tu sais, qui est sec. T'sais, un élastique sec, ça casse.
Ouais.
Un élastique qui est comme, qui est huilé, qui est comme neuf, il va être capable de s'étirer puis de revenir à sa forme. Fait que si on peut faire comme l'analogie, je ne sais pas si ça fonctionne, mais...
Oui, non, j'aime beaucoup cette analogie-là avec l'élastique. La seule différence, c'est qu'un muscle est réparable.
Oui.
Ouais. Pas l'élastique, mais le muscle est réparable.
Oui. Ça prend des exercices spécifiques ou des outils, en fait, parce que c'est ça, j'imagine que... Toi qui as été certifiée, ben, tu sais, qui a fait une formation là-dedans, tu as dû apprendre comment préparer le plancher pelvien avant l'accouchement. T'sais, si on va dans le volet maternité-accouchement, on pourra passer le volet plus comme sport ou entraînement un peu. Mais si on parle vraiment maternité, tu as dû voir avant quoi faire, pendant aussi, puis après. C'est quoi les exercices? C'est quoi les comment tu... T'aborderais le sujet avec une femme qui, elle apprend qu'elle est enceinte, puis là, est-ce qu'il y a des choses qu'elle doit faire dès qu'elle commence à vivre sa grossesse pour préparer son plancher pelvien?
Dans le fond, j'encouragerais n'importe quelle femme enceinte à juste continuer d'être active. C'est ça, en théorie, là, on ne va pas recommander à une femme enceinte de commencer une nouvelle activité qu'elle n'a jamais faite là, avant, mais il y a plusieurs nouvelles activités qui sont sécuritaires, là, dont le yoga. Mais je dirais simplement de continuer d'être active. Comme ça, tu continues d'avoir une conscience sur ton corps, tu continues d'avoir une conscience... T'es un petit peu plus à l'affût des changements aussi de ton corps, de qu'est-ce qui se passe et tout, parce que tout le long de la grossesse, mais là, ton corps change, puis ce qui fonctionnait hier, ce qui faisait du bien hier, ça veut pas dire va faire du bien demain, mais donc d'avoir juste une bonne connexion là, au niveau du corps, au niveau du plancher pelvien. Beaucoup de docteurs vont suggérer de faire des Kegels, donc d'aller faire des contractions au niveau pelvien. Je dirais oui et non. Donc, oui, mais pas que ça. Donc, tu peux faire des contractions au niveau plancher pelvien pour vraiment garder une connexion. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont besoin de renforcer le plancher pelvien.
Oui, c'est un peu un mythe si on veut que tout le monde devrait faire des Kegels, le fameux Kegel exercise.
Oui.
C'est comme... pour en avoir un peu entendu parler, c'est bon, mais pas pour tout le monde. C'est pas un truc, c'est comme la formule pour... Parce que comme tu dis, on a identifié qu'il y avait deux types, qu'il y avait les hyper puis les hypo, c'est ça? Donc, quelqu'un qui est trop tête, si tu lui demandes de
faire les Kegels en plus, le oui. Fait,
c'est comme contre-productif, dans le fond.
Fait que je dirais, puis le Kegel, c'est pas tout le monde qui le fait correctement non plus. Donc, je dirais, même au niveau prénatal, là, d'aller trouver un spécialiste pour vraiment t'aider à s'assurer que tu fasses tes contractions comme il faut. Puis ensuite, de jumeler ça avec la méditation. Donc, de jumeler ça avec la relaxation. Pour que, justement, il y ait une bonne connexion avec le plancher pelvien, mais de pas aller fou, là, qui gosse constamment. Mais de gêner ça avec la méditation. Aussi, il y a beaucoup d'autres groupes musculaires autour. Là, je les ai nommés un petit peu plus tôt, mais pour les renommer, là, au niveau abdominal, là, c'est sûr qu'enceinte, c'est différent parce que là, il y a l'étirement des abdominaux. Mais au niveau fessier puis adducteur, c'est des groupes musculaires qui vont affecter le plancher pelvien. Donc, de continuer de rester forte au niveau des fessiers, au niveau des adducteurs, au niveau abdominal, si tu peux continuer de faire des activations, ça n'a pas besoin, c'est sûr que dépendamment de la pression puis les positions, ça diffère. Puis chaque femme enceinte est différente aussi.
Mm-hmm.
Puis même de la même femme, les grossesses ne vont pas être différentes à chaque fois.
Ben oui.
Ils ne vont pas être pareilles à chaque fois. Donc,
exact.
Mais de rester active, de continuer de faire de l'activation musculaire, ça ne veut pas dire que tu vas PR là, enceinte, quoique je suis sûre qu'il y en a qui le font, mais c'est simplement de rester active, de garder une certaine connexion. Comme ça, après, ça va être plus facile de retrouver cette connexion-là.
Mm-hmm. Donc, c'est de travailler les antagonistes, si on veut, quand tu dis renforcer la chaîne postérieure, tu sais, pour supporter la chaîne antérieure. Fait que, tu sais, c'est d'avoir peut-être un peu plus de mindfulness dans ton entraînement. Quand tu vas porter un enfant, bien, c'est ça, ton corps va changer. Puis, c'est de rester dans ce que le corps connaît, de ne pas partir dans une autre direction complètement. Puis, mm-hmm. c'est d'aller renforcer stratégiquement aussi le corps pour le préparer au changement et surtout à l'accouchement pour avoir un meilleur retour, pour optimiser le retour à son plein potentiel physique, si on veut, là, après l'accouchement. Est-ce qu'il y a une façon de détecter si ton plancher pelvien est comme hyper laxe ou trop tendu? Est-ce qu'il y a d'aller consulter un spécialiste ou, tu sais, mettons, si une femme vient te consulter, est-ce que tu serais en mesure de détecter si son plancher pelvien est comme hyper-hypo?
Dans le fond, ça va partir de la posture. Donc, moi, c'est de là que je partirais. Donc, d'évaluer la posture puis voir qu'est-ce qui se passe avec la posture. Donc, une posture qui est tendue, une posture qui manque un peu de tonus. Là, tu sais, donc, tu verrais, là, ça va se refléter au niveau du plancher pelvien. Puis ensuite, dans les habitudes de vie, donc les mouvements que tu fais, le niveau d'activité physique que tu fais aussi, puis ton niveau de stress. Donc, ça va être, encore une fois, c'est difficile de savoir exactement est-ce que son plancher pelvien est hyper ou hypo, mais après ça, avec les exercices qui vont être prescrits, bien, on va voir est-ce qu'il y a une bonne évolution, est-ce qu'on s'améliore ou pas, ben là, on va falloir changer là, l'approche. Je dirais quelqu'un qui a des problèmes au niveau du plancher pelvien, par exemple, une sorte d'incontinence, qui suit un programme puis que ça s'améliore pas, qui change de programme, que ça s'améliore pas, ben là, je dirais définitivement consulter un physio spécialisé en plancher pelvien ou c'est des gens qui sont spécialisés pour faire des examens là, puis pour vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe. Je sais que pour certains, c'est un petit peu intrusif, là, mais ça peut vraiment aider là, parce qu'à un certain moment, là, tu ne sais pas.
Mm-hmm.
Tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai eu l'aide de mon gynéco, mais si je n'avais pas insisté, ça faisait 6 semaines que j'ai eu mon bébé, puis j'avais l'air ben belle, ben fine, oh. OK, bye.
C'est ça qui est fou, je trouve, parce que c'est un sujet que je pense qu'on aborde de plus en plus, qui est un petit peu plus mis à la lumière parce qu'on se rend compte que, je dis on, là, mais dans le sens que j'ai l'impression que les femmes qui accouchent ou même peu importe, les femmes qui ont accouché ou non, développent des fois des problématiques post-accouchement ou des problématiques tout court. Et c'est lié au plancher pelvien. Fait que je pense que c'est ça, il y a de plus en plus de curiosité et d'intérêt à en apprendre davantage. Mais on n'est pas tellement informé par, justement, gynécologue, par physio, par... Tu sais, c'est pas une avenue qu'on va voir si quelqu'un a des problématiques... dans cette région-là, j'ai pas l'impression qu'on parle du plancher pelvien parce que c'est un peu nébuleux comme système. Tu sais, c'est très, tu sais, ton muscle de biceps, de tes quadriceps, tes fessiers, tes voies, mais tes muscles à l'intérieur le plancher pelvien, tes voies pas, puis ils sont durs à solliciter. Tu sais, quand on dit contracte ton plancher pelvien, tu sais, des fois, je me rappelle quand j'étudiais, quand j'ai fait mon teacher training en yoga, on parlait de ça, tu sais, contracter votre plancher pelvien. Tu sais, ça prend une très forte connexion à ton corps puis une compréhension de ton corps et, tu sais, de toi-même pour être capable d'aller aussi spécifique et précis. Fait que monsieur, madame, tout le monde, sans généraliser, bien sûr, mais tu sais, dans un cours de yoga ou dans une salle de sport ou un cours de fitness, tu sais, moi, je coach, de dire contractez votre plancher pelvien quand vous faites des squats ou quand vous faites votre bridge pose, votre posture du pont, c'est loin, là, c'est poussé. Fait que comment tu amènes ça de façon vulgarisée à ta clientèle, mettons, tu sais, mettons que là, maintenant que tu as plus d'outils, comment tu amènerais ça de façon accessible?
Et, avec la respiration, ça devient vraiment organique. Donc, n'importe quel problème au niveau plancher pelvien, il faut retourner à la respiration. Mmh. Puis, tu sais, c'est vraiment plate à dire. Les gens, ils veulent quelque chose de...
magique.
Magique, avec des brillants, d'instantané. Puis c'est comme... c'est parce que je respire à tous les jours, là, à journée longue, moi, mais... c'est parce qu'il faut le faire comme il faut. T'sais. Puis au niveau de la femme qui a eu la grossesse après l'accouchement et tout, il faut réapprendre. Donc, le corps s'adapte et ensuite, il faut réapprendre. Le corps aussi va s'adapter à un mode de vie stressé. Puis la respiration va s'adapter. Donc, il faut réapprendre. Donc, dès que tu inspires par le nez, si tu gardes ta respiration au niveau du chest, ton plancher pelvien ne sera pas affecté. Mais en théorie, tu devrais, à chaque inspiration, tu devrais laisser le diaphragme descendre. Donc, s'il n'y a pas d'activité au niveau du diaphragme, il n'y a pas d'activité au niveau de la ceinture abdominale, il n'y a pas d'activité au niveau du plancher pelvien, puis là, ça fait qu'il y a une respiration qui est dysfonctionnelle et ça amène donc une dysfonction au niveau du plancher pelvien puis au niveau de la pression intra-abdominale. Donc, c'est là que quand tu vas, exemple, éternuer, ah ben là, tout est pris, là, puis là, ben, il va y avoir une trop grande pression puis le corps n'est pas capable de gérer la pression. Parce qu'en théorie, tu inspires, les poumons se gonflent, le diaphragme descend, le plancher pelvien s'étire. À l'expiration, le plancher pelvien relaxe, le diaphragme remonte. Mm. Même au niveau visuel, je me suis rendu compte que, exemple, en classe de yoga, je ne suis pas certaine comment, je n'ai pas encore évalué là, comment je vais faire pour régler cet effet visuel-là. Mais quand on inspire, on aime monter les bras en haut.
Ouais.
Et à l'expire, on descend les bras. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que la respiration va. À l'inspiration, ça descend. Mm. Puis à l'expiration, ça remonte. Ça s'évacue. Donc, c'est vraiment curieux, même au niveau, c'est vraiment ancré, là, qu'à l'inspiration, on garde ça dans le chest, dans les épaules, puis dans le cou, puis à l'expiration, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment là, de réapprendre à bien respirer. Puis dès que, si tu fais une respiration vraiment profonde, là, n'importe qui est assis en ce moment, mettons adossé à ta chaise, puis bien, à l'inspiration, tu veux descendre le diaphragme. À l'inspiration, tu veux gonfler le ventre, tu veux gonfler les côtes, tu veux même gonfler, créer une pression au niveau du bas de dos. Tu devrais sentir une pression au niveau du plancher pelvien au bas de la chaise. Puis à l'expiration, on relaxe, on expire. S'il n'y a aucune pression au niveau du plancher pelvien, continue. Essaye un petit peu plus longtemps. À l'inspiration, en théorie, il y a une pression qui se fait vers le bas. À l'expiration, ça relâche. Il y a différentes façons, positions, là, habituellement, parce que les abdominaux vont être, c'est connu, une partie un petit peu plus faible en général, la ceinture abdominale qui est, contrairement au reste du corps, là, donc, de respirer au niveau du ventre, souvent, c'est plus facile. Parce que il y a pas vraiment de résistance. Mm-hmm. On peut respirer au niveau du ventre, mais quand c'est le temps de faire les côtes puis le bas de dos, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, l'idée, c'est de vraiment faire une respiration à 360 degrés pour permettre à la pression de continuer vers le bas. Parce que si on fait que respiration du ventre, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va toucher le plancher pelvien.
Mm-hmm. Ah, c'est donc, super fait... intéressant.
Mais, vas-y.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment intéressant de revenir à la base qui est la source de la respiration parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense que c'est inné, mais parce qu'on respire pour vivre, puis on respire sans s'en rendre compte, de façon inconsciente, mais on ne respire pas bien. Puis la plupart des gens, justement, ne respirent pas bien parce qu'ils sont soit stressés ou ils ont... Puis pour différentes raisons, tu sais, si je me ramène à moi, tu sais, j'ai fait de la danse classique dans ma vie, j'ai fait du sport longtemps, l'entraînement, que j'en fais toujours, mais particulièrement en danse, tu sais, en danse classique, on nous demandait de rentrer le ventre, de respirer par la cage thoracique sur les côtés, parce qu'il fallait rentrer le ventre tout le temps, avoir une belle posture. Fait que j'ai développé un mécanisme de respiration qui était tout le temps en haut, à partir des basses côtes jusqu'à ma bouche, mettons, tu sais. Fait que tout ce qui se passe en bas, là, c'était comme, il ne fallait pas que ça bouge, il fallait que ça soit pris dans un bloc, puis le plus contracté possible. Donc, tu sais, en y repensant, c'est pas la façon de respirer ou, tu sais, c'est une façon de tenir son corps pour une certaine discipline, mais après ça, si ça devient ta façon de respirer, de vivre, d'être dans la vie, c'est là que ça peut provoquer des problématiques. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, l'aspect de revenir au souffle. Ça pourrait même être une thématique de classe de yoga ou une thématique d'atelier, tu sais, de réapprendre à respirer, comme « Do you really know how to breathe? »
Tu penses pas que c'est aussi important, mais après ça, bien, ça se transfère partout. Donc là, on a pris un peu, tu sais, la femme enceinte qui a besoin de réapprendre à respirer. Puis c'est surtout parce que, bien, ça fait 9 mois qu'elle a quelqu'un qui pousse sur ses poumons, puis qui pousse ses organes, puis qui fait qu'elle n'a pas vraiment d'espace pour respirer. Ouais. Mais un athlète, genre un coureur, qui respire pas complètement, qui n'utilise pas bien le plancher pelvien, peut aussi bien avoir une blessure qui revient constamment.
Oui.
Comment ça, ma blessure n'arrête pas de revenir? Un fléchisseur de hanche ou un mal au bas de dos, puis parce que ça revient tout le temps. Je la règle, je vais voir mes spécialistes, puis ça revient. Si la respiration, elle n'est pas profonde, il y a juste une dysfonction qui se crée. Et parce qu'à chaque fois que tu respires complètement, mais tu te trouves à étirer la cage thoracique, tu te trouves à masser les abdominaux de l'intérieur, puis tout prend sa place. Sans la respiration profonde, c'est vraiment difficile pour le reste des muscles de ne pas compenser pour une certaine faiblesse. Donc, si le plancher pelvien n'a jamais l'occasion de s'étirer pendant la respiration, bien, c'est là que tu as un plancher pelvien hyper tendu parce qu'il n'a jamais l'occasion de s'étirer. Donc là, bien, mon plancher pelvien hyper tendu qui ne peut pas... qui ne peut pas m'aider à me stabiliser, ben là, ça va être mes stabilisateurs de hanches ou mes fessiers qui vont compenser pour le manque et puis pour la faiblesse au niveau du plancher pelvien. Mais si tes fessiers compensent pour le plancher pelvien, ben ils ne font pas leur job quand c'est le temps de faire ce qu'ils sont supposés faire.
Puis tu sais, c'est ça. Puis surtout que les fessiers, c'est des muscles qui sont, si on prend l'exemple des fessiers, c'est des muscles beaucoup plus... c'est beaucoup plus gros, plus superficiel. Fait que si on ne va pas justement aller dans du plus spécifique, plus des muscles plus subtils, mais autant importants comme les transverses, qui sont des muscles profonds, les abdominaux, plancher pelvien, qui sont les muscles qui vont supporter, qu'on a vu que c'était comme le hamac. Si on ne va pas spécifiquement, puis de façon qualitative, aller les titiller, les renforcer, bien, c'est clair que s'il y a moindrement une dysfonction ou une genre de faiblesse, bien, c'est les muscles superficiels qui prennent le dessus, puis c'est là que ça crée justement bien, soit des blessures ou des problématiques XYZ comme on a détaillé tantôt. Là. Donc, c'est vraiment...
Je dirais que c'est même une nouvelle tendance. Ça fait longtemps que c'est là, mais... avec la médecine de l'Ouest, on commence à comme un peu revirer les choses puis de comprendre que le corps est une unité. Tu sais, si t'as mal aux hanches ou t'as mal au fessier ou t'as mal à l'épaule, c'est peut-être pas l'épaule ou le fessier ou la hanche le problème. Tout est relié.
Ouais.
Donc, le plancher pelvien, puis surtout au niveau du bas de dos, il y a beaucoup de gens qui vont aller trouver toutes sortes de rendez-vous puis de spécialiste, puis tu sais, de régler les problèmes de dos, puis des tensions et tout. Puis dans le fond, il y a tellement de muscles qui tirent sur la colonne vertébrale, puis surtout au niveau plancher pelvien, bien, le plancher pelvien lui-même, puis après ça, bien, il y a les fessiers puis les fléchisseurs de hanches qui sont tous rattachés là, à la colonne lombaire. Bien là, bonne chance là, de trouver qu'est-ce qui ne va pas, mais si oui. Tu fais juste attaquer la douleur, tu ne trouveras peut-être jamais ce qui se passe, tu ne régleras peut-être jamais ton problème. Donc, c'est vraiment de penser, là, de cette nouvelle pensée-là que le corps est une unité, puis de vraiment évaluer de la tête aux pieds qu'est-ce qui se passe, parce que ça peut être simplement
la respiration.
La respiration ou ta posture de la tête par en avant. Qui donc influence ta respiration, qui influence tout le reste de ton corps jusqu'au gros orteil.
Ouais, c'est super intéressant. Puis comme tu dis, c'est pas simplement et seulement pour les femmes enceintes ou qui passent par la maternité ou qui ont accouché, c'est tout le monde. T'sais, c'est autant les hommes, les femmes, les gens actifs, les gens plus sédentaires, parce que si tu es actif, tu peux développer certaines problématiques. Si tu es sédentaire, trop sédentaire, tu peux développer d'autres problématiques. Donc, le plancher pelvien, tout le monde en a un et tout le monde devrait faire un petit check-up pour savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est vraiment, vraiment fou. En fait, on dirait que ça me fait poser des questions. Je me dis, ah mon Dieu, ben, quand j'ai mal là, est-ce que c'est dans le fond mon plancher pelvien? Je me ramasse à me poser plein de questions sur ma respiration, puis tout ça, même si je médite, même si je suis assez connectée à mon souffle, je suis comme, ah mon Dieu, mais le potentiel est là pour aller encore plus loin, d'allonger son souffle, puis c'est tellement des notions qu'on fait comme, ben oui, d'accord, mais ça a un réel impact, là, c'est ça que je me rends compte.
C'est vraiment pas une aptitude facile d'être en équilibre. dans sa vie, là, dans toutes les sphères de notre vie. Là, donc, puis surtout au niveau du stress puis de la relaxation, là, c'est pas... Il y a rarement quelqu'un qui a un style de vie qui va être capable d'être en parfait équilibre.
C'est un processus. Mais toi, tu t'es spécialisée plus dans le post-natal, donc après l'accouchement. Mm-hmm. Fait que j'imagine que, bon, les clientes que tu vas avoir ou les gens à qui tu veux te communiquer ou c'est vraiment suite à l'accouchement, si je me trompe pas, c'est ça. Donc, dans le fond, la différence, c'est qu'eux, ils ont eu, bon, le plancher pelvien a eu un espèce de choc. Il s'est ouvert à fond. Il a eu son maximum de stretching. Okay. Et là, c'est de retrouver la réhabilitation, c'est de ramener le plancher pelvien à sa forme initiale, si on veut.
Oui, ça peut être une façon de le dire. Je dirais que ça va être de reconnecter avec le plancher pelvien. Ensuite, ça va être de retrouver un système fonctionnel, là, de la tête aux pieds, avec retrouver la connexion et tout, de rétablir la respiration, comme j'ai mentionné. Puis ensuite, d'évaluer la posture, parce que une femme qui vient d'avoir 9 mois enceinte, que son corps s'est habitué, s'est adapté, puis... curieusement, même si elle n'est plus enceinte, que c'est le temps d'avoir bébé dans les bras, puis on retrouve la même posture. Donc, un petit peu la tête devant, les épaules par en avant, puis la courbe du bas de dos se trouve à monter un petit peu là, plus haute pour s'adapter en fait au poids. Mais la même chose, il y a bébé dans les bras, donc ça, tout se trouve, la posture ne se trouve pas à changer vraiment. Il faut que ce soit conscient. Puis ensuite, de réapprendre à gérer la pression intra-abdominale. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui vont se trouver à influencer le plancher pelvien. Puis, c'est un peu plus que le plancher pelvien comme tel, là, parce qu'il est influencé tellement par...
Comme on disait, c'est une unité, fait que tu regardes pas juste la source, tu vas aller chercher l'ensemble. Puis justement, comment tu abordes le processus avec quelqu'un qui, ben, une femme qui vient d'accoucher? Est-ce que c'est un traitement? C'est des exercices que tu donnes? Est-ce que c'est plusieurs suivis? Est-ce que c'est un suivi? Puis après ça, la personne apporte avec des outils pour faire son travail à la maison. Comment ça se passe, mettons, une rencontre? Ou est-ce que tu fais comme des consultations?
Oui, ben en fond, c'est mon but, là. Je viens juste de comme lancer là, ma petite business.
Oui, Lifted Mama, justement, que je veux qu'on plonge là-dedans, c'est sûr. Ben, peut-être qu'on peut apporter justement le sujet. Ton entreprise qui s'appelle Lifted Mama. Donc, si tu peux justement en parler puis voir comment tu vas supporter les femmes là-dedans ou dans leur processus.
Oui, bien, je trouve que c'est un coup. T'as accouché, c'est pas évident d'aller dans des cours de groupe ou de prendre des rendez-vous précis là, parce que y a beaucoup à gérer à la maison. C'est mon but là, d'apporter mes services en privé, donc un one-on-one. Donc, on aurait une rencontre initiale où on aborde comment ça va. comment que maman se sent dans son corps, qu'est-ce qui se passe, si elle a des inquiétudes, si elle a déjà des problèmes spécifiques par rapport à comment l'accouchement est allé. Parce qu'une femme qui a eu, qui a subi un certain niveau de déchirure, ça va être différent. Là. Donc, il va falloir qu'elle prenne un petit peu plus de temps, puis il faut vraiment attendre que le corps ait cicatrisé au niveau périnéal avant de commencer à mettre de la pression. Là. Mm-hmm. Puis si c'est une césarienne aussi, ça va être différent. Puis ça, aussi pour enlever, là, des fois, il y a ce mythe-là que la femme qui a eu une césarienne va se trouver à passer par-dessus les problèmes au niveau plancher pelvien, comme s'il n'y avait pas d'impact au niveau plancher pelvien, mais les abdominaux font partie du plancher pelvien. Oui. Donc, s'il y a eu une chirurgie puis une ouverture à travers la ceinture abdominale, c'est shut down. Là. Donc, il va y avoir un certain travail encore une fois à réactiver. Puis ensuite, il y a aussi un travail d'assouplir la cicatrice pour s'assurer qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle des scar tissue parce que ça peut vraiment là, endommager puis créer une dysfonction au niveau complet au niveau des abdominaux. Donc là, il n'y a plus de connexion au niveau du plancher pelvien. Donc, je dirais que même une césarienne est quasiment plus dommageable qu'un accouchement à voie naturelle. Donc, c'est vraiment à considérer là, que même si tu as une césarienne, ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problème au niveau du plancher pelvien. Mm-hmm. Donc, c'est juste une rencontre initiale, puis ensuite, on se fixe des buts. À ce niveau-là, je vais faire un programme personnalisé. J'aime mixer le yoga avec ma nouvelle certification. C'est aussi la façon que moi, j'aime bouger. Donc, j'aime bouger en flow. À travers les positions de yoga, c'est là qu'on va faire la reconnexion avec les muscles, travailler la respiration, puis avoir des pauses qui vont être spécialisée puis choisie là, pour les besoins de maman. Puis ensuite, je vais faire des suivis là, avec mm-hmm. elle là, pour s'assurer que tout va bien, qu'on s'améliore, qu'on a nos buts et tout. Donc, c'est vraiment possible de faire ça là, à distance. Éventuellement, j'aimerais qu'un coup que la pandémie va se quitter. Là,
On
va revenir à la normale. Je pense que c'est aussi ce qui manque beaucoup. Quelqu'un physique qui est là pour te supporter après, au niveau postnatal. Il y a beaucoup de workouts qui sont là en ligne pour une belle maman et tout, qui sont bounce back, puis retrouve ta shape. Mon but, c'est de préparer maman pour qu'elle retourne à l'entraînement, pour qu'elle retourne faire ce qu'elle aime faire, pour qu'elle puisse retourner faire son sport pour retrouver sa shape.
Ouais.
Moi, je m'occupe pas, peut-être éventuellement, là, de travailler sur, parce que ça va être plus au niveau nutritionnel, là. L'idée de bounce back, en deux semaines ou en trois semaines, j'y crois pas. j'y crois juste pas. Il y a eu un traumatisme là, au niveau du plancher pelvien, il vient d'accoucher.
Part au complet, là, mentalement aussi. Tu sais, c'est comme beaucoup là, pour c'est une femme d'accoucher. Tu l'as vécu trois fois, fait que j'imagine que tu le sais.
Ben, c'est ça, tu sais, l'avoir vécu trois fois aussi. Et c'est surtout que. Puis aussi, j'ai vécu deux fois d'avoir retrouvé ma silhouette assez rapidement, mais en dessous, ben, c'était pas prêt. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un renforcement au niveau profond qui doit se faire. Même si c'est pour être enceinte encore, il y a vraiment un renforcement qui doit se faire pour comme pour éviter tous les problèmes qui peuvent s'en suivre. Là, parce que ben je comprends que ce soit tabou, là, c'est vraiment pas quelque chose qui est intéressant ou ambiant, sexy à parler. Là, aucun contrôle sur ma vessie. Donc, oui, un tabou.
C'est important d'en parler. Puis je trouve ça vraiment chouette que tu sais. Quand tu dis un support, tu sais, je vais être un support autant que tu vas donner. Tu veux faire la transition entre l'accouchement et faire ton training que tu faisais avant. Puis, tu sais, c'est comme une zone grise où est-ce que, bon, souvent, ce qu'on voit qui est démontré dans bon, les vidéos YouTube ou dans les photos Instagram, en tout cas, les réseaux sociaux, c'est comme j'ai retrouvé ma chèpe en tant de semaines. Puis, tu vois des photos de filles qui ont leurs abdos après tant de semaines. Après, exact. Puis, tu sais, tu te dis, c'est-tu vraiment ça? Tu sais, je me pose moi-même des questions. Fait que j'ai pas l'impression que c'est la réalité. Donc, je trouve ça vraiment cool, cette espèce de zone où est-ce que toi, tu veux accompagner pour que, de l'accouchement, on fait un travail qui est nécessaire en vue de revenir à son training. Pas en vue que tu as repris ta shape, mais en vue que tu commences à reprendre ta shape. Puis ça, je trouve ça vraiment chouette. Puis d'être un support, j'imagine aussi mental, tu sais, d'avoir cette espèce de compassion-là, de compréhension, de dire, OK, ça va bien aller, là, tu sais, comme là, tu as l'impression que ton corps est bousillé ou genre que tu vas jamais retrouver une vessie qui va pas avoir des fuites à toutes les fois que tu rigoles un peu plus fort, tu sais.
C'est ça. La transition entre de femme à maman, c'est pas facile. Puis c'est aussi de pas oublier que tu fais une transition, en fait, tu rajoutes un rôle. Tu n'arrêtes pas d'être une femme, mais tu te rajoutes un rôle, d'être maman. Puis c'est aussi que ensuite la transition de 1 à 2, de 2 à 3, c'est la transition est différente. Là. C'est pas. Puis même je pensais, mon deuxième accouchement, ah, been there, done that, tu sais. Pas en tout. C'est complètement différent. T'sais. Donc, aussi, avec Lifted Maman, ce que je vais essayer de faire, c'est de donner des cours pendant le troisième trimestre pour se préparer. Mm-hmm. Parce qu'il y a des cours préparatifs à l'accouchement, des cours préparatifs au premier jour avec bébé. Comme il va te donner un petit peu... C'est sûr que tu pars de l'hôpital ou de ton centre de naissance avec comment prendre soin de toi, tes cicatrices, mais après, comment prendre soin de ton corps, comment continuer de te nourrir adéquatement, qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui serait supposé être important. Non, pas de bounce back tout de suite. Ton focus est sur bébé, mais ça devrait être aussi sur de garder l'esprit sain puis de savoir un peu qu'est-ce...
Genre d'hygiène de vie.
Oui.
Avec l'arrivée d'un enfant qui change un peu tous tes repères, j'imagine, ou... Qui change ton horaire complètement, là, tu sais. Donc, j'imagine que ça doit être un gros enjeu.
Puis ensuite, la relation avec ton partenaire, tu sais, ça prend un coup. Donc, c'est des trucs pour la communication. C'est ça. Ensuite, juste des petits trucs faciles pour essayer de pas... de rien empirer, là, au niveau de la diastase. Donc, il y a la séparation au niveau des grands droits avec l'élargissement du ventre. Donc, qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui peut m'aider? Qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui va m'aider au niveau plancher pelvien sans faire des exercices? Tu peux juste être consciente de ta posture, être consciente de mes mouvements pour t'aider à déjà commencer à réapprendre comment avoir un système plus fonctionnel.
Mm-hmm. Et combien de temps, disons que, bon, une femme vient d'accoucher, combien de temps tu leur suggérerais de comme prendre cette zone, on va dire, grise-là, de reprendre possession de son corps, juste à se préparer à se réentraîner? C'est combien de temps, ça, à peu près?
Bien là, ça va varier d'une femme à l'autre. Là, c'est vraiment du cas par cas. Quelqu'un qui est un athlète, qui s'entraînait beaucoup, beaucoup, beaucoup avant, pendant, va vouloir y retourner tout de suite.
Mm-hmm.
Ça, c'est la personne qui va être le plus difficile à asseoir, puis à faire comme non.
Et là, je vais être un cas difficile, Gabrielle. Je vais être un cas difficile.
C'est beau, je vais m'occuper de ton cas. Mais ça va être vraiment la femme qui va être la plus difficile parce que son corps est habitué d'être constamment en mouvement et donc elle va vouloir y retourner tout de suite, mais il faut qu'elle laisse le temps à son corps de réparer les cicatrices, de vraiment, tu sais, comme d'être prête. Donc, je dirais, au niveau de la respiration, ça peut se faire tout de suite. Tu ne feras pas de dommages à respirer là, du tout. Donc, au niveau de la respiration, ça peut se faire. Je dirais pas sans ajouter de pression ou il n'y a pas de contraction, juste de commencer à bien respirer, mettons, allongé. Puis ensuite, vers 4 semaines, que là, tu peux faire plus de connexion.
Un peu de yoga, mettons, quand tu dis connexion, c'est de bouger.
Oui, une connexion, de bouger, de faire, d'aller chercher une certaine contraction sur demande, là, tu sais. Puis ensuite, des mouvements sans pression, vraiment là, à basse intensité. Mais de commencer à juste comme bouger, activer, sentir okay, comment ça se passe. Quand on est rendu à 4 semaines, tu peux évaluer ma diastase est rendue où. C'est aussi de faire attention. Les programmes qui vont commencer à 6 semaines en ligne, Bounceback, pour avoir ton corps, il y a une emphase sur la diastase que je vois beaucoup. Mais la diastase n'est pas là pour rien. Les abdominaux se sont ouverts, puis ensuite, quand tu es rendu à ta réhabilitation, c'est là où elle joue un rôle au niveau de la pression intra-abdominale. Donc, si tu fermes ta diastase tout de suite, bien là, la pression, elle va aller vers le bas, elle va aller au plancher pelvien. Mm. Donc, il y a ouais, la pression va se trouver à aller où il y a le moins de résistance.
Ouais.
Donc, si c'est imagine. Pas... Donc, c'est un peu pour ça où la diastase, quand c'est le temps de reprendre, si tu reprends rapidement les exercices, puis tu te mets à faire des abdominaux, puis tu fermes ta diastase, ben là, si tu n'es pas occupé de ton planche pelvien, la pression va aller vers le bas. Donc, c'est là aussi le corps est une unité, là, c'est vraiment de réhabiliter le corps de la tête aux pieds, de s'occuper du plancher pelvien en même temps de la respiration, puis de la posture, puis de reprendre l'activité au niveau abdominal. Donc, c'est délicat. C'est surtout qu'il y a tellement de pression sociale autour de retrouver ta shape, mais c'est
progressif.
Progressif, c'est un gros travail mental de te laisser le temps. Ça a pris 9 mois à créer un bébé. Tu as le droit d'avoir 9 mois pour te réhabiliter. Là.
Mm-hmm.
Tu n'as vraiment pas besoin d'être rapide. Mais ça n'a pas besoin d'être rapide, mais... là, prends ton temps.
Oui, non, c'est clair. Puis est-ce que j'avais déjà entendu je pense pas que c'est un mythe, là, ben, parce que c'est réel, mais justement, si tu vas trop vite puis tu essaies de, mettons, faire des abdos, si on parle de la diastase, donc la séparation du grand droit,
mm-hmm.
Puis que tu te mets à t'entraîner puis à faire des abdominaux, des crunchs puis des abdominaux dynamiques, ben tu peux créer cette séparation-là comme à vie. Là, tu peux la faire en sorte qu'elle va se solidifier comme ça. C'est comme tes abdominaux vont figer, mais avec cette ouverture-là, c'est vrai? C'est-tu comme un semi-mythe ou...
Je dirais que c'est un semi-mythe. Là. C'est sûr que c'est en fond, si tu crois faire des abdominaux super intenses, puis ouais, si tu crois faire des abdominaux comme intenses, puis tu crois figer ta diastase, ben, c'est juste que il y a un travail supplémentaire à faire pour ensuite aller la fermer. Parce qu'il y a des femmes qui vont se la créer.
Mm-hmm.
Tu n'as pas besoin d'enfant, là, tu peux te la créer. Là, si tu viens, si tu as un débalancement au niveau de la ceinture abdominale, puis tu trouves j'oublie, là, c'est pas les transverses abdominales, là, mais c'est. Si tu trouves être trop forte d'un côté ou de l'autre, là, parce que tu vas trouver à créer ta séparation. Quelqu'un qui perd beaucoup de poids, et donc qui en avait une, puis là, ben, ça va falloir la réparer, la réhabiliter. Donc, ça peut affecter n'importe qui, mais oui, si tu crées la diastase avec la grossesse, puis tu vas trop rapidement, puis que tu trouves à comme figer ta diastase, ben là, tu vas avoir de la misère avec ton fonctionnement abdominal, recrutement des muscles et tout, parce que ben, tu pourras avoir cette séparation-là. Donc, c'est juste d'aller trop vite, trop fort, tu t'aides pas. Là.
Mm-hmm. Donc, c'est prendre le temps, c'est la clé, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on ne veut pas faire, mais c'est un bon travail, en fait, mental. Puis, en fait, c'est le meilleur exemple pour dire que le temps fait bien les choses, qu'il faut juste laisser naturellement le corps reprendre. Puis après ça, on lui donne un petit coup de main. Quand il est bien encadré, bien orienté, puis justement, tu sais, ta compagnie, les filles de maman, est là pour ça, j'ai l'impression, pour comme guider la femme ou la personne à revenir à son plein potentiel physique. J'aime ça l'appeler comme ça parce que de se donner toutes les chances, en fait, t'sais, de ne pas forcer, c'est de donner le bon équilibre entre le push and pull. T'sais, c'est comme
oui, absolument.
Push.
J'aime bien plein potentiel. Là, c'est exactement, exactement le but. Là.
Mm-hmm. Puis, je voulais qu'on parle aussi pendant l'accouchement. J'ai déjà entendu encore un mythe ou une réalité. T'sais, j'aime ça aller dans ce sujet-là. Ben, il y avait comme des techniques d'automassage, comme de son plancher pelvien pour aider à l'assouplir. Parce que c'est ça, comme on parlait plus tôt dans l'entrevue, tu sais, un plancher pelvien trop tête n'est pas meilleur qu'un plancher pelvien pas assez, pas assez tête, on va l'appeler comme ça. Mais c'est ça, j'ai entendu dire qu'il y avait comme des techniques où est-ce qu'il fallait vraiment tu rentres les doigts pour aller masser dans certains angles. Est-ce que c'est quelque chose qui est comme efficace, pertinent? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à des femmes?
Mais je dirais que c'est quelque chose qui est définitivement possible pendant la grossesse. Juste de commencer à masser au niveau le périnée, puis de vraiment détendre les muscles du plancher pelvien. Tu peux le faire par toi-même, tu peux avoir ton conjoint qui t'aide aussi. Puis c'est vraiment juste pour comme détendre, pour un petit peu, il y a des techniques là, d'étirement du périnée pour comme commencer un peu à aider avec l'élasticité. Ça s'est dit que ça peut aider pour diminuer les déchirures. Mais c'est vraiment selon ton confort. Là. Personnellement, je n'ai pas fait cette pratique-là, mais c'est quelque chose que je recommanderais si quelqu'un est confortable avec l'idée. Là.
Mm-hmm. Puis est-ce que, là, c'était pendant cette question-là, c'était plus pendant la grossesse, après l'accouchement, post-accouchement, est-ce que tu recommandes tout de suite de comme prendre en charge la réhabilitation du plancher pelvien? Mettons quelqu'un qui a eu comme plusieurs grossesses comme toi, mettons, ou qui a eu une grossesse, mais qui n'a jamais été informé ou éduqué là-dessus sur la réhabilitation, puis il se rend compte qu'il y a certaines problématiques ou des différences avant sa grossesse par rapport à post-accouchement. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a il est trop tard si la personne attend trop longtemps ou tu sais, ça ne change rien que ce soit tout de suite après ou dans quelques semaines, mois, même années? Est-ce que c'est irréparable, irréversible ou il y a toujours moyen de ramener son plancher pelvien à une version optimale?
Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Puis là, c'est en espérant que ce soit la tante de l'autre tante qui nous écoute puis qui fait « Ah, ben c'est pas trop tard! » Non, c'est vraiment pas trop tard. Donc, comme des problèmes au niveau plancher pelvien peuvent affecter maman ou un homme ou quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, grand-maman qui qui a juste enduré tout ce temps-là d'avoir des suites peut se rétablir, puis...
Peut commencer une rééducation périnéale, puis ouais. Ça peut fonctionner. C'est...
Absolument. C'est un groupe musculaire, c'est juste qu'il n'y a pas... c'est soit qu'il n'y a pas de... Il faut juste conscientiser ou de juste réapprendre, peut-être juste un peu réapprendre la respiration, ça peut comme tellement régler le problème, mais aussi de juste de faire quelques connexions. Maintenant, c'est tendance d'avoir comme le wellness au niveau de la maternité, puis de montrer la vraie réalité, puis de parler ouvertement des problèmes du plancher pelvien, mais il y a quelques années, mais non, il ne fallait pas parler de ça, puis c'est tabou, puis les femmes, on endure. Donc, c'est sûr que les générations avant nous, s'ils sont intéressés et s'ils veulent décider d'arrêter ces problèmes-là pour celles qui en ont, c'est jamais trop tard.
C'est pas, faut comprendre que c'est pas normal d'avoir des fuites, de pas être capable de retenir son envie de pipi.
Exactement.
C'est pas quelque chose que, c'est parce que j'ai accouché, parce que j'ai eu une grossesse ou parce que, je suis faite comme ça. T'sais, mettons quelqu'un qui a jamais eu d'enfant, un homme.
Ou je vieillis. Ça fait partie de. Non, il y a aucune raison qui peut justifier de continuer d'avoir des fuites. Là. C'est pas normal. C'est un phénomène qui peut être normal. Là. C'est la vie. Là. Je veux dire, on passe notre vie debout, assis, puis la pression, elle va vers le bas. Oui. La gravité. Là, mais non, là, c'est tout à fait fixable. Là. On peut régler ça.
C'est ça. Il faut juste prendre action. Puis comme tout processus, tu sais, justement, de perte de poids, de gain de masse, de régler une blessure, d'objectif d'atteindre X choses, que ce soit dans un sport, une discipline, justement, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est peut-être moins intéressant ou le fun à se focusser, là, son plancher pelvien, mais si ça fait en sorte que ça rend ton corps plus fonctionnel, puis ça rend des inconforts, ça fait disparaître des espèces de problématiques comme ça. Je encourage en tout cas fortement les gens qui nous écoutent et qui se reconnaissent à prendre action par rapport à ça, parce que on voit que c'est pas si compliqué, tu sais, en fait, c'est de retourner des fois à la base, à la source, qui est la respiration, la posture, l'hygiène de vie, le, comment on utilise notre corps, en fait.
Oui, tous les jours.
Oui, puis pour faire le lien avec le yoga, ou tu sais, de rentrer dans peut-être plus du concret ou du physique, tu sais, parce qu'on parlait justement beaucoup de la respiration comme première approche que tu as avec les clientes, mais ce serait quoi des exercices simples, que ce soit des postures de yoga ou juste des petits exercices que quelqu'un pourrait faire à la maison ou super simples, tu sais, pour en vue de soit, raffermir le plancher pelvien, le connecter avec son plancher pelvien, en fait.
Donc, j'irais définitivement avec des pompes. Les genoux sur le dos, les genoux fléchis, puis compression des fessiers, puis monter les fesses. Si vous avez accès à une balle, une petite balle là, à peu près 5 pouces de diamètre, là. Entre les genoux, ça peut être n'importe
une
quoi.
Une balle de massage ou comme un ballon plus de...
Comme un
de
ballon qui semi-ferme, là, tu sais. Ouais, un petit ballon semi-ferme pour se trouver à serrer entre les genoux. Ouais. Puis monter les fesses, là, ça va être une façon, c'est vraiment une des positions de base, yes, là, pour tu trouves à activer fessier, adducteur, plancher pelvien. Ensuite, pas tout à fait au début, mais tout ce qui est planche, donc tout ce qui est gainage, là, planche, là, tu vas trouver à activer la ceinture abdominale, puis ça va engager le plancher pelvien. Ensuite, tu vas demander des exercices simples. Ensuite, un coup que tu as fait une bonne connexion, que tu as retrouvé là, un peu une contraction sur commande et tout, je dirais une des étapes, surtout avec le yoga, ça va être d'inclure des transitions un petit peu plus complexes. Parce qu'au début, ça va être des transitions très, très, très simples. Exemple d'aller dans un vinyasa, ça va être de passer par les genoux pour vraiment que ce soit, je sens, comme le moins intense possible. Puis ensuite, plus les transitions sont complexes, exemple de passer d'un chevalier 2 à chevalier 3, donc de passer d'une position assez stable sur deux pieds, puis là, ben, de se trouver engagé au niveau abdominal, plancher pelvien, de faire un shift au niveau de où l'équilibre est, puis de s'en aller sur un pied. Donc, tout ce qui est des positions d'équilibre, des positions, des transitions un petit peu plus complexes.
Asymétrique, où j'imagine aussi que ça amène beaucoup de stabilité au niveau du plancher pelvien. Donc,
ouais.
Ça doit venir.
Donc, je dirais que c'est ça. Au niveau, le renforcement va se faire plus, le renforcement va se faire plus comme au plancher. Donc, j'aime beaucoup utiliser les ponts, planches, des séries de lunges. Et un coup que c'est ça, que tu es en yoga, tu peux faire des transitions, puis c'est là que tu vas trouver à inclure la stabilité en toute fin. Là. Donc,
Même chose pour l'entraînement, tu sais, c'est d'y aller progressivement, c'est de ne pas faire de saut d'impact tout de suite, d'aller, tu sais, de ne pas faire de box jump, de jump squat, de double under si on va dans le crossfit, là, qui est plus de mon, mettons, de mon côté, là, mais c'est d'y
tu
aller
peux,
comme...
Je dirais pas, pas dans les premières semaines, là, mais un coup que il y a une certaine compréhension de gérer la pression intra-abdominale, puis ensuite, un coup là, tu es capable de gérer la pression, puis si tu es capable de retrouver une bonne connexion, si tu es un athlète, là, tu es prêt à retourner en CrossFit, de vraiment être consciente de ta respiration. Donc, dès que tu vas faire un mouvement de haute intensité, retiens pas ton souffle. C'est vraiment important d'expirer sur l'intensité. Si tu es pour sauter, de commencer avec des plus petits sauts et tu devrais expirer quand tu sautes et atterris. Pour vraiment diminuer l'intensité, diminuer la pression, là, pour vraiment comme à l'effort et à l'impact. D'être sur l'expiration, comme ça, il y a le moins de pression possible sur le plancher pelvien. Ça peut être aussi à la corde à danser, il y a différentes techniques, mais surtout de pas tenir le plancher pelvien tout le long, parce que ça va pas t'aider. Là. Ça va de tenir le plancher pelvien tout le long pour essayer de pas avoir de fuite à chaque fois, mais là, tu trouves à créer de la tension pour rien. Ce que je suggérais, c'est les petites expirations à chaque saut.
Super intéressant, Gabri. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Là, tu viens de partir ton entreprise. C'est assez nouveau. Je vois que tu es en feu, que ça roule, tu poses plein de choses. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu as des projets? Juste brièvement, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? As-tu des choses à nous partager?
Ben là, faut que je lance le site web pour que les gens intéressés ou qui aient besoin d'assistance puissent me contacter. Je dirais, l'idée avec Lifted Maman, c'est de pouvoir aider le plus de mamans possible. Donc, si je peux aider autant les gens de Québec que les gens ici au Texas, à San Antonio, c'est vraiment mon but, là, de pouvoir aider non seulement les gens, la communauté que je fais partie ici, mais les gens avec qui j'ai grandi à Québec. Et puis, je pense, loin, éventuellement, c'est Lifted Maman va pouvoir aussi aider au niveau nutritionnel, là, parce que c'est plus facile de savoir quoi manger, qu'est-ce qui est mieux à manger plutôt que d'éliminer. C'est beaucoup plus facile de savoir quoi manger un coup que là, c'est ça, quand tu commences à être dans la routine, là, puis que tu commences à tanner, que tu veux bounce back, que tu veux retrouver ton corps. Donc, d'essayer d'aller chercher le plus d'outils possible pour pouvoir alléger l'esprit de maman, puis de pouvoir la supporter en tout et partout.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment l'idée.
Ce qui est chouette avec ça, c'est que, bon, avec la pandémie, ça nous a amené à être beaucoup en virtuel. Donc, tu peux connecter beaucoup plus facilement avec plein de monde, autant la communauté de Québec, du Québec, et la communauté que tu as créée au Texas. Donc, c'est super cool. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ça. Je pense que c'est vraiment un besoin qui est présent. Et je ne suis pas inquiète que ça va rouler tes choses. Et justement, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Ta page Instagram, c'est quoi le nom? Si les gens veulent aller visiter ta page, t'écrire et te contacter.
Donc, c'est at lifted.mama. Maman, le M-A-M-A. Et puis, le site web va être liftedmama.com. Donc, assez simple.
Super.
D'un moment à l'autre, là, je vais lancer le site web entre un changement de couche puis gérer mes trois cocos. Là. Je vais faire ça bientôt.
Je vais le mettre dans les notes, dans les show notes, là, en dessous de l'épisode. Je vais mettre les liens. Donc, les gens qui écoutent le podcast, qui veulent contacter Gabri, qui va avoir plus d'informations, qui ont des questions par rapport au sujet qu'on a abordé, n'hésitez pas à lui écrire. Je pense que ça te ferait plaisir de répondre à ça. Vous pouvez m'écrire aussi à moi, mais je vais vous référer à Gabri si elle est l'experte là-dedans. Donc, Gabri, merci beaucoup pour ton temps et toute l'information pertinente que tu as partagée. C'est vraiment chouette. Merci d'avoir accepté encore une fois. Puis, j'espère te voir bientôt en personne. J'espère... que tu vas revenir à Québec nous revisiter, mais d'ici là, on se voit en virtuel, puis c'est quand même mieux que rien. Bon succès avec tout ça, puis à bientôt.
Merci, Jeanne. Bye.